Et à toutes, c'est bon de vous voir. Je suis vraiment content aujourd'hui. Ma prière pour chaque dimanche, pour chaque culte, c'est Dieu qui vienne et parle tout along la culte. C'est pas juste moi qui dit quelque chose et nous avons le Saint-Saint qui dit quelque chose d'autre, la louange qui fait quelque chose en plus, mais c'est Dieu qui crée toutes les choses pendant la culte et toutes dire la même chose. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et c'est content. Presque toutes les choses que je veux dire est déjà dit. C'est peut-être un peu plus court maintenant. On veut voir. Je veux parler un peu de notre salut aujourd'hui. C'est un grand sujet, mais je pars juste un petit point pour parler. Et j'aime trouver des versets qui parlent dans la Bible du caractère de Dieu. Et j'aime de découvrir des choses à son sujet, d'apprendre à le connaître. Apprendre et à le connaître. C'est bien. Et j'ai fait la suite de Philippiens 2. Ce n'est pas prévu. Farid a pris les versets 5 jusqu'à 11. Et aujourd'hui, je veux parler le 12. Et 13. Et j'ai récemment tombé sur cette verset qui m'a fait réfléchir quelquefois. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. J'ai lu ce verset beaucoup de fois pendant les années, et j'ai l'entendu mentionné dans les prédications auparavant, mais il semblait me sauter aux yeux ce fois, ce jour-là, et j'ai décidé de l'utiliser et d'étudier cette verset et de comprendre ce qu'il dit de Dieu et ensuite ce qu'il devrait signifier pour nous en tant que l'Église. Pas jusqu'ici, mais l'Église au global aussi. Mais de bien comprendre les deux versets, nous avons déjà lu les versets avant, mais c'est nécessaire de comprendre le contexte. Qu'est-ce que c'est le contexte de ce verset et le livre de Philippiens? Et pourquoi Paul disait-il cela? Paul a écrit cette lettre à les Philippiens alors qu'il était en prison à Rome. Il a écrit seulement, spécifiquement 4 lettres pendant cette période. Et contrairement aux autres, cette lettre était différemment, car Paul répondait à l'amour que les Philippiens lui avaient témoigné. Ils avaient envoyé de l'argent et l'aide pour son ministère, et le matériel, etc. Et il n'y avait pas d'urgence à l'époque, à les Philippes, mais nous voyons dans cette lettre que les habitants, les chrétiens dans Philippe, étaient chers à Paul et qu'il les aime. Et pas seulement pour l'acte qu'ils avaient accompli, mais il a un cœur pour les gens à Philippe. Il s'agit d'une lettre d'appréciation pour les gens, et à travers cette lettre, nous trouvons beaucoup d'encouragement de la part de Paul. Il leur a enseigné, par cette lettre, qu'ils doivent vivre en harmonie les uns avec les autres. Et cela ne peut venir que l'humanité que le Christ a personnifiée dans les gens. Dans ce livre de Philippiens, nous trouvons de nombreux versets de la Bible couramment cités. C'est souvent nous trouvons les versets de Philippiens. Nous savons que Paul s'est rendu à 4 reprises à Philippe au cours de sa vie et qu'il s'est pris d'affection pour les Philippiens, car il était devenu très proche de Christ. Ils ont changé leur vie, ils ont changé beaucoup de choses. Et Paul a suivi le changement de leur vie, de les gens. En regardant à nouveau ces deux versets, attends, je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui. Philippi est une ville romaine avec très peu de juifs. D'accord? Et il a construit cette église avec les Romains, les gens, les Gentiles, païens. Si on regarde les versets à nouveau, vous pourriez faire 2 sermons entières sur les deux. Mais n'inquiète, je n'ai pas fait ça aujourd'hui. Pour cette traduction française, j'ai dû consulter quelques Bibles jusqu'à je trouve la traduction qui a un sens similaire de la version anglaise. Évidemment, plus important pour moi, mais parce qu'il dit quelque chose d'important pour nous. Et j'explique pourquoi pendant ce matin. Je crois que c'est nécessaire aussi de trouver la bonne traduction, parce qu'une fois, c'était pour notre groupe de vie, j'ai préparé tout en anglais, j'ai lu ma Bible anglaise, etc. Et je commence à expliquer les choses que je veux dans le groupe de vie avec ma Bible en français. Mais quand je commence à lire, il dit pas la même chose que la version anglaise et aussi c'est pas le même verset. C'est un petit problème, mais c'est nécessaire de voir avant. Le début du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Cette première partie du verset parle d'abord de la relation que Paul avait avec les Philippiens. Et ensuite, du caractère des membres de l'église de Philippe. Paul aimant les gens de cette église. Ils étaient obéissants et comprenaient ce que c'était qu'être un chrétien, de suivre le Christ et de se transformer du passé. Et ils ont également bien soutenu Paul au fil des ans dans son ministère. Il est intéressant de noter ici, dans cette ville qui est remplie avec les gentils, ils avaient incarné les anciens membres de Paul et créé une lumière importante pour le monde qui les entoure. Cette ville et créer une culture spécifique, pas comme les villes romaines. Et cette époque, c'est vraiment important. La deuxième partie de le premier verse, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Attendez une minute. Travaillez à votre salut. Ah. Je pensais que notre salut était donné gratuitement et que nous n'avons rien de faire pour gagner le salut. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? C'est pas pareil. Non. En fait, le salut ne se mérite en aucun cas. Mais il est donné gratuitement à tous ceux qui le demandent, qui pardonnent le péché et qui naissent de nouveau. Et oui, c'est 100% correct. Alors, à quoi cela fait-il référence? De votre salut? Oui. Une fois que nous sommes sauvés, nous sommes toujours sauvés. Mais nous avons besoin de travailler à votre salut, à notre salut. Donc, c'est dit quoi? Cela fait partie d'un grand débat théologique entre des nombreuses églises. C'est le débat sur la sanctification. Avant que vous ne commenciez à vous inquiéter, je ne fais pas seulement sur la sanctification parce que cela mérite beaucoup de temps de parler. Mais je vais dire quelques mots. La sanctification est le processus d'être rendu saint et rempli de Saint-Esprit. C'est le changement que nous vivons tous en tant que croyants, opéré par Dieu dans nos vies, depuis notre salut jusqu'à la fin de nos jours. D'accord? Nous devenons chrétiens en tant que pécheurs, des pécheurs égoïstes. Dieu, par sa parole, la Bible, par l'intermédiaire de Saint-Esprit, nous transforme en une nouvelle personne qui est remplie de Saint-Esprit, qui est conduite par l'Esprit et qui a peu de ressemblance avec la personne du passé. D'accord? Nous suivons le modèle que le Christ nous avait présenté lorsqu'il était sur terre. Et Satan dit que le processus de sanctification vient du fait que nous nous efforçons de ressembler davantage au Christ dans notre vie. Il y a de nombreuses références dans la Bible à la sanctification. Et peut-être cela peut-il être un sujet futur à couvrir avec vous, mais pour l'instant, je vais mentionner quelques points concernant notre salut et notre sanctification sans entrer dans le grand détail. Dieu nous ordonne de le faire, la sanctification. Nous pouvons trouver de nombreuses écritures où il nous est demandé de renouveler notre esprit, de nous détacher du péché, de prendre le bon chemin, etc. C'est un changement de vie. Nous avons vie dans cette direction, mais Dieu change nous d'aller dans une autre direction. C'est une commande. D'être chrétien, c'est pas possible de continuer dans cette direction. Ça ne marche pas. Nous avons besoin de changer la direction. Il est dans notre propre intérêt de le faire. Nous avons tous la responsabilité de faire. C'est une responsabilité individuelle. Avec l'aide d'autres personnes, si possible, d'ouvrir à notre propre salut. Et nous devons participer activement, car il ne se fera pas tout seul. Même la Bible parle de notre participation active. sur ce processus. Dieu aide ceux qui cèdent au même. Dieu ne le fera pour vous. Dieu ne le fera pour nous. C'est nous qui avons besoin de faire. Personne ne peut le faire pour nous aussi. Il s'agit de notre propre vie, et même si les gens nous aiment et nous encouragent et ou nous soutiennent, prient et pleurent pour nous, ils ne peuvent pas nous sauver. Il y a un travail que nous devons faire dans nos propres cœurs. C'est nous qui faisons ça. Mais nous ne devons pas penser que cela implique ou signifie ce qui suit. Premièrement, nous ne gagnons pas le salut ou la sanctification. Nous y travaillons. D'accord? Et le deuxième point, nous ne pouvons pas travailler pour payer nos péchés. Passé, c'est pas possible. C'est le Christ qui est mort sur la croix, qui a enlevé et payé le prix de nos péchés. C'est déjà fait. C'est pas nous qui fait. Nous ne pouvons pas faire cela. Jean 14, 6, Jésus répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Ce que cela signifie donc simplement est de nous devons faire un effort honnête pour changer notre vie de la manière dont le Christ nous l'a enseigné. Nous devons croire en Christ et lui faire confiance. Nous devons abandonner tout ce que nous avons pour Dieu. Nous devons nous détacher du comportement pécheur, rompre les relations qui sont mauvaises pour nous. Ça, c'est difficile. Mais nécessaire. Que nous résistons à toutes les habitudes et natures pécheresses de ce monde, nous sommes dans. Et pour faire tout cela, nous devons persévérer. Ce n'est pas facile. C'est contre la culture de ce monde. C'est contre le cœur de nous-mêmes. Mais c'est nécessaire. La suite de ce verset parle de la crainte et de tremblement. La crainte et le tremblement. Merci Pierre pour la louange aujourd'hui. C'est parfait. Souvent, la louange est magnifique, mais il parle de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons loué Dieu pour qui il est. Oui. Je dois admettre que j'ai choisi cette traduction de verset spécifiquement pour ma préférence. Beaucoup des autres, d'autres traductions, à mon avis, le présentent de manière un peu plus douce. Ils utilisaient les mots humblement et avec respect. C'est beaucoup plus douce que la crainte et du tremblement. Et je préfère le crainte et le tremblement. Et je l'explique pourquoi. Humblement et avec respect transmettent un sens insuffisamment fort. Comme nous le dirons en anglais, c'est un mot que j'ai appris cette semaine, édulcoré. Ouais, c'est intéressant. Comme on le fait avec le jus de fruits ou un sirop, en ajoutant de l'eau. Et les mots humblement et avec respect, nous avons ajouté un peu de l'eau. Parce que crainte et tremblement, c'est un peu trop fort. Cela le rend un peu plus acceptable pour nous. C'est plus facile pour nous d'accepter. Avec crainte et tremblement, c'est plus choquant, plus cru. Et cela attire votre attention. Nous avons souvent cette familiarité avec Dieu dans nos vies. Et elle est quelque peu gâchée par notre propre culture terrestre et notre utilisation des mots et de la terminologie de Dieu. Nous parlons de la relation père et fils. C'est un sentiment d'intimité et de proximité. Normalement, on n'associait pas cela de la peur, la crainte et le tremblement avec intimité. Il n'arrive pas. Nous parlons de la grâce et de l'amour de Dieu, souvent en tel point que nous le voyons pas comme ce Dieu très haut, puissant, assis sur un trône dans les cieux, comme nous avons chanté ce matin, mais plutôt comme une paluche. Ça, c'est le problème dans beaucoup des églises. Nous avons vu Dieu comme une doudou pour les enfants, pas un Dieu qui est tout puissant. Ça, c'est vraiment un dommage. C'est un auteur anglais qui a dit « Vous devez procéder à une refonte car la familiarité engendre une sorte de complaisance. » La familiarité, c'est bien. On apprend à connaître Dieu. On apprend à connaître son caractère. On utilise le tout et non le vous. Je comprends quelque chose en français. Mais il arrive un moment où nous ne voyons pas le reste de Dieu. Il rentre dans notre propre vision, la boîte que nous lui créons. La partie de ce verset concerne la crainte et le tremblement fait référence à cela. Nous devrions avoir peur de notre Père, de notre Dieu, et tremble devant lui en raison de son pouvoir et de sa puissance ultime. Et c'est pourquoi les mots humblement et avec respect prennent tout le sens. C'est à cause de son puissance. Nous vivrons avec respect. Nous devons nous rappeler qu'il y a ce Dieu tout-puissant, puissant, qui a toutes choses sous son contrôle, qui nous reste humble devant lui et que nous agissons toujours avec respect dans notre relation avec lui. Nous devons voir et connaître sa grandeur. Nous devons craindre sa discipline. Hébreux 12, verset 6 dit, « Le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il punit tous ceux qu'il accepte comme fils. » Nous devons révérer sa parole. Nous devons considérer avec un profond respect de la déférence et de l'admiration la parole du Seigneur. C'est dans Ésaïe 66, verset 2, que nous trouvons « Voici celui que j'estime, celui qui est humble et contrit en esprit et qui tremble devant ma parole. » Dieu estime. Il a une haute opinion de celui qui tremble et s'agit devant la parole. Nous devrions être conscients de cela chaque jour, en nous réveillant et aussi en travaillant à notre salut, avec cette nature humble et respectueuse, sans arrogance. Nous verrons Dieu fait des choses étonnantes à travers et avec nous, et nos vies changeront. Revenons à Philippiens 2, verset 12. La partie suivante du verset dit, « Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Et cela s'applique également à nous tous ici aujourd'hui. Non, je ne parle pas de Paul et aux dernières nouvelles de la Bible. Il n'est pas une question qui revient ici, pas Paul. Je parle des anciens et des responsables dans cette Église, des personnes que nous amenons pour prêcher et enseigner chaque jour ou chaque semaine d'entre nous. C'est quelque chose que nous sommes tous responsables de faire dans nos vies. Pas d'attendre pour quelqu'un, c'est notre responsabilité de faire. Comme j'ai déjà dit ce matin, c'est notre responsabilité de faire. Il est plus facile d'être enseigné par quelqu'un, d'apprendre et de mettre en pratique ce que l'on a appris dans notre vie. C'est plus facile, oui. Mais nous ne devrions pas compter uniquement sur eux. Nous devrions nous efforcer tout le temps dans nos vies de connaître Dieu davantage et de travailler notre salut en conséquence. C'est un travail que chacun d'entre nous doit faire. Comme j'ai déjà dit, chacun de nous a cette responsabilité. Avec l'aide des autres personnes, si possible, pour nous d'accomplir notre salut. Nous arrivons à Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est un grand verset qui peut être compris de deux façons différentes. La première façon, je l'explique, est erronée et je vais vous dire pourquoi. On peut d'abord comprendre que Dieu vous donne le désir et la capacité d'agir selon sa volonté. Nous plaçons ici les limites et la vision humaine dans cette compréhension. Nous disons que Dieu décide en fonction de notre valeur, combien il décide de nous plonger. Et donc, c'est en fonction de nos œuvres potentiellement. Et c'est avec ça, Dieu nous donne ses désirs et capacités. Ça, c'est faux. Ou encore, c'est en fonction de la humeur de Dieu, chaque jour, qu'il vit, qu'il va nous donner. Ce n'est pas ça aussi. Quand nous lisons ces versets, la première chose qui vient, c'est vient de notre culture. Et notre culture dit, nous avons mérité quelque chose quand nous avons fait quelque chose. Mais avec Dieu, c'est contrairement. Nous ne devons pas sortir cela dans son contexte. Dieu, heureusement, n'est pas comme nous, pas comme l'homme. Son désir pour nous est toujours bien supérieur à ce que nous pouvons supporter. Il peut fournir une multitude de bénédictions, des bénédictions en abondance, qu'il n'y a aucune limite pour nous. Et nous n'avons pas quelque chose de faire. C'est gratuitement. Il donne. La véritable explication ou la meilleure explication de ceci signifie que nous devons comprendre le mot grec original utilisé dans ceci. C'est le mot énergon. Ça signifie travail ou travailler. Ah, c'est le mot again, on se croit. Ou être actif pour produire un effet. D'être actif pour produire un effet. C'est de là que nous tirons le mot énergétique. D'accord? La chance pour vous aujourd'hui, je vais vous donner une petite leçon de science gratuite. Cela ramène à l'époque où je donnais des cours à l'université. C'est bien. J'aimais les sciences. Avant que j'aie oublié, il y a un test à la fin de la leçon. OK? L'énergétique est une partie de le domaine de la chimie et traite de la transformation de l'énergie où l'énergie est transformée d'une forme à une autre. C'est nécessaire de comprendre ça, de mieux comprendre le verset. D'accord? Par exemple, si j'ai deux produits chimiques dans des verres, ici, ce ne sont que des produits chimiques à température ambiante. C'est tout. C'est deux produits qui ne font rien. Mais lorsque je verse un produit dans les autres, il y a une réaction. Et un nouveau produit chimique se forme et de chaleur est générée. D'accord? J'ajoute l'eau dans le... Donc l'acide, il génère la chaleur et un autre produit se forme. Le récipient contient le nouveau produit chimique devient chaud. L'énergie passe d'une forme statique et inerte à une autre forme, la chaleur. Avant, il n'y a pas de chaleur, mais l'énergie est là, dans une autre forme. Après, il y a la chaleur. C'est la même énergie, mais dans une autre forme. Vous suivez? C'est bien? D'accord. OK. Qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu et les Philippiens 2, 13. Dieu est à l'œuvre en nous par notre salut. Nos vies sont transformées et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Notre confiance en lui a grandi et nos vies changent. Dieu est l'accomplissement de notre salut. C'est Dieu qui travaille en nous. Ce sont les deux produits chimiques que se combinent et le résultat de cette réaction est la libération d'une nouvelle énergie. Cette énergie est libérée en nous ou sous la forme de notre volonté ou de notre désir de faire et de notre capacité à faire. En cela, ce n'est pas Dieu qui agit, il nous conduit et nous agissons. C'est notre volonté de faire. Nous ne sommes pas forcés de faire. Un désir en nous est généré pour que nous faisons. Quand Dieu vient, il génère une réaction de nous. Et nous avons un besoin de faire. Parce que Dieu est là. C'est non plus une force physique. Allez, Andrew! C'est pas comme ça aussi. C'est une force qui est générée dans... C'est une force morale qui vient dans l'intérieur de nous. Dieu nous donne le désir et l'envie de faire sa volonté. Alors que nous travaillons à notre salut, des désirs sont générés dans nos cœurs pour faire sa volonté, pour enseigner, diriger, prier, évangéliser, soigner, aimer, faire toutes les choses que Dieu nous appelle à faire. Et enfin, de ce verset, il est dit que c'est selon de son bon plaisir. Comme c'est merveilleux. Son plaisir ne parle pas seulement de son bonheur. Hein, c'est good. Je suis content, il fait les choses. Non, c'est pas ça. C'est dans son accomplissement. Mais il fait référence à sa volonté. C'est pas pour la bonne humeur, c'est pour sa volonté. Le plaisir, c'est pas l'humeur, et le bonheur, c'est la volonté. C'est un jeu avec les mots. Lorsque nous sommes en phase avec Dieu, travaillant activement à notre salut, Dieu est à l'œuvre en nous. Nos vies changent et nous vivons dans le respect et l'honneur de notre Seigneur et Père. Nous sommes attentifs et réceptifs à sa volonté dans nos vies et nous agissons sur cette volonté pour générer les effets que nous voyons. C'est Dieu qui agit en nous parce que nous y participons volontairement, qui génère nos actions et l'expression visible de notre foi, de notre marché avec le Christ. Et je viens à la fin. Je vous invite à mettre cela en action dans nos vies, à reconnaître la grandeur de Dieu, sa puissance et son pouvoir, à le respecter et à le rendre honoré, mais à mettre activement notre foi en pratique. Voyons nos vies se transformer sous nos yeux. Gagnons cette course, la bonne course. Soyez bénis.